Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler cinéma, aujourd'hui avec des films dont certains étaient présents à Cannes, et notamment le Yorgos Lanthimos, Sophia, qui a valu à un de ses acteurs le prix d'interprétation.
Oui, Jesse Plemons a remporté le prix d'interprétation masculine dans Kinds of Kindness, dont je vais vous parler.
Et puis toi Manu, tu as fait le choix de nous parler de plusieurs films.
De quatre films, hein, qui n'ont pas forcément de lien entre eux, à part que ce sont des films à petite audience. Je vais vous parler donc de Vas-tu renoncer, de Camping du lac, d'un documentaire sur Jambez et puis d'un film sud-américain argentin, Léon.
Et puis nous irons en Bhoutan avec un film qui s'appelle Le moine et le fusil qui sera proposé par Guillaume. Je vous parlerai aussi des pistolets en plastique qui était la grosse comédie cannoise qui était présent à la quinzaine des cinéastes. Mais je vais commencer par un film hors compétition. Après Les Mousquetaires, c'était encore une adaptation d'Alexandre Dumas avec le comte de Monte Cristo et dans le rôle titre Pierre Niney.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser.
Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès.
La promotion est folle autour du Comte de Monte Cristo, énième adaptation de l'imposant ouvrage d'Alexandre Dumas, écrit en 1844. Pierre Niney, qui incarne Edmond Dantès, alias le Comte de Monte Cristo, est de tous les plateaux. Hein. Le comédien ne manque pas de raconter qu'il y aura un avant et un après Monte Cristo pour lui et pour sa carrière. Et de dire sur une grande radio généraliste qui diffuse Les Grosses Têtes, c'est l'indice, je mets au défi les gens de dire que c'est moins bien qu'Hollywood. Alors on comprend cette comparaison déjà parce que le budget atteint les 43 millions d'euros. Ce qui fait beaucoup hein, pour un film français. Et puis, pour le casting, il y a Pierre Niney qui tient le haut de l'affiche pour le beau rôle et puis qui est plutôt apprécié par la jeune génération. Et puis, les affreux sont interprétés par Laurent Lafitte, Bastien Bouillon, qu'on a vu dans La Nuit du 12, et Patrick Mill. Les filles, toutes innocentes, sont interprétées par Anaïs Desmoustiers et la nouvelle révélation du cinéma français, Anna-Maria Vartolomé. La comparaison avec Hollywood tient aussi probablement à la réalisation et aux moyens qui ont été donnés.
Nous a trahi alors qu'il est le sort des traîtres.
Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent!
Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort.
Je suis à côté.
Je suis l'abbé Faria. Et moi, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté.
Et je sais où se trouve le trésor.
Alors, vu à Cannes, hein, où il était projeté hors compétition, le film était évidemment très éloigné des films de la compétition. C'est un film qui, là, pour le coup, est taillé pour le succès. Sa durée approchant les 2h50. Alors, ça pourrait être un problème, mais Pierre Niney a raison de rapprocher le Comte de Monte Cristo du standard hollywoodien, puisque tous les blockbusters maintenant américains font 2h30 ou plus. Le rythme semble retors, car le film est scindé en trois grosses parties. Celle où Edmond Dantès se montre valeureux et courageux et où il obtient une promotion, mais où il est trahi. Il est tout de même arrêté le jour de son mariage, suspecté de trahison et d'être un bonapartiste. Il y a la partie où Edmond Dantès est placé dans un cachot sur l'île d'If, dont il faut bien admettre hein, qu'il faut de l'ingéniosité et du temps pour s'échapper. Mais il y parviendra, le bougre, au bout de 14 ans. Et enfin, la dernière partie, la pièce maîtresse où ce fils de domestique qui était parvenu à devenir capitaine de navire et à qui on a tout enlevé jusqu'à le rabaisser, eh bien, va se venger. Alors si tout cela s'emboîte bien, c'est qu'Alexandre Dumas est déjà un feuilletoniste hors pair et Mathieu Delaporte et Alexandre Delapeute des scénaristes plutôt talentueux. Ils sont derrière Le Prénom ou Papa ou Maman et la récente saga des Mousquetaires.
À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis.
Qui êtes-vous?
Je suis le Comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts.
Prêt à faire quoi?
À se venger.
te présente enfin le comte de Monte Cristo.
Albert, que sais-tu de cet homme ?
Je me méfie de tout le monde en général et les étrangers en particulier.
Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient ? Où il va ?
Vous n'avez donc aucune pitié ?
Et eux, allons-ils lui pour Edmond Dantès ?
Vous aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance ? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice.
Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie.
Alors Ducachot, Edmond Dantès revient sous les traits d'un richissime comte de Monte Cristo. Patiemment, on le voit mettre ses pions pour se venger. On assiste à la métamorphose d'un héros obsédé par la justice qu'il doit faire au passé. Avec son argent, son habileté, sa connaissance de l'homme, à la manière d'un Machiavel, son objectif va bien être de dégommer ceux qui lui ont fait du tort, en les faisant mourir, souffrir ou en les déshéritant, c'est selon. Le comte de Monte Cristo appartient à ces films de grands spectacles pour lesquels il faut que tous les ingrédients soient au rendez-vous. Alors nous avons les grands décors, les châteaux, les cachots, la prison. Il y a aussi la nature, nous avons le casting et l'interprétation avec les costumes qui vont bien. Nous avons l'image avec une caméra qui évidemment ne tient pas forcément en place mais peut s'attarder quand même sur des gros plans, des plans serrés ou plans séquences et servir l'histoire. Mais aucun trait de mise en scène ne se dégage pour autant. Le film est dans un gloubi-boulga emprunté par de nombreux autres blockbusters. L'histoire étant plutôt bien écrite, on a l'avantage de voir un divertissement avec son lot de bravoure, de bassesse, de combat à l'épée et ses inévitables histoires d'amour dont une est tout de même à peine croyable. Alors n'ayant pas lu le roman original, honte à moi évidemment, il semblerait que les scénaristes aient pris la liberté de déplacer les amours entre certains personnages. Mais voilà, je ne sais pas. J'ai eu peur que ça me prenne trop de temps pour trouver qui aimait qui. Alors pourquoi pas donc si ça peut servir le récit et si ça resserre l'intrigue. Les 5 heures de maquillage qu'a dû se farcir Pierre Niney pour incarner le comte n'ont pas été vaines. Il tient une bonne partie du film, l'acteur, en donnant au personnage sa conviction et sa dureté comme son intelligence dans la froideur. J'espère donc que vous prendrez autant de plaisir à voir le film que j'en ai eu. Bien sûr, alors rien ne déborde vraiment, tout est bien léché. Alors il n'y a rien d'un chef-d'œuvre, mais au moins on a une belle œuvre dans laquelle personnages, décors, costumes, récits et actions se combinent parfaitement. Alors pourquoi ce film sort le vendredi 28 juin et pas un mercredi 26 juin, ça je ne sais pas.
On peut signaler qu'il y avait déjà eu une version en France de 43 de Robert Vernet qui durait déjà plus de 3 heures et qui avait été diffusée à l'époque en deux parties. Donc c'est un récit finalement suffisamment riche qu'on ne peut pas resserrer, à mon avis, en un film d'une heure et demie, deux heures. Ça me semble logique que le film dure 2h50.
Oui, et puis après, ils ne voulaient pas le faire en deux parties parce que ça peut arriver. Enfin, aussi, le cinéma américain fait ça maintenant. C'est-à-dire qu'on attend la deuxième partie 2 ans après, 3 ans après. Mais là, voilà, ils ont voulu resserrer. Une plongée dans le pays du bonheur national brut où il faut mettre les habitants au pas de la démocratie. Nous parlons maintenant du moine et du fusil.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard. Cinérama.
Après l'école du bout du monde, qui lui avait valu de nombreux prix internationaux, dont, excusez du peu, une nomination à l'Oscar du meilleur film étranger, Pao Shoning Dorji revient avec Le Moine et le Fusil, un titre qui semblerait appeler un certain type de film. Alors qu'on se le dise, Le Moine et le Fusil n'a rien à voir avec une production du type Machine Gun Preacher, avec un Gerard Butler qui manie aussi bien les psaumes que les armes automatiques. Ici, il va être tout le temps question de sérénité et les armes à feu mises en scène ne serviront à aucune scène de violence, bien au contraire. La conclusion de ce récit atypique, amusant et à la limite de la contemplation se chargera même de faire en sort à toute forme de manifestation violente. Mais sans dévoiler cette fin, qu'est-ce qui se passe justement pour qu'un moine rencontre un fusil ?
2006,
le Bhoutan s'ouvre à la modernisation et découvre Internet, la télévision et surtout quelque chose d'encore plus inconnu à leurs yeux et coutumes, c'est la démocratie. Ce royaume bouddhiste situé dans l'est de la chaîne de l'Himalaya voit son régime politique changer pour la toute première fois de son antédiluvienne histoire et cela ne va pas se passer sans problème. Alors pour apprendre à son peuple à voter, le gouvernement organise des élections blanches et substitue à des candidats des couleurs correspondant à des éléments de vote à choisir parmi 3. roi bien distinctes. Mais bon, dans un pays où la religion et le roi importent plus que la politique, bah, les considérations personnelles ou encore les réflexions qui vont de pair avec le choix d'un candidat, les habitants semblent peu motivés et peu enclins à se reposer sur l'ancien système. Alors, au même moment, dans une province montagneuse reculée, un moine décide d'organiser une mystérieuse cérémonie le jour du vote et charge l'un de ses disciples de retrouver un fusil. Et encore au même moment, un Américain arrive dans le pays à la recherche d'un fusil antique de très grande valeur. Son chemin va croiser celui du jeune moine sans savoir que leurs intérêts vont entrer en conflit et que toutes les attentes vont se cristalliser le jour même du vote. On pourrait penser à beaucoup de choses à l'écoute de ce résumé, mais il faut rester attentif à ce que le film propose d'entrée, c'est-à-dire un regard paisible et bienveillant sur une transition politique qui s'accompagne d'une réflexion assez intelligente sur les armes. Car si on pourrait penser à tort que cette situation compliquée présentée dans la première partie du long métrage va amener le tranquille royaume dans un chaos, ben c'est avec malice et sagesse que tout ce petit monde va se charger de remettre en place à la fois nos attentes, mais aussi notre conception occidentale du monde. Alors, non pas qu'il est question de remettre en cause le bien fondé des vertus de la démocratie, mais qu'il y a tout simplement plusieurs moyens de diriger un monde et que la pédagogie, elle, est la plus belle des façons de faire comprendre aux gens que ce qui est pour leur bien, c'est de leur donner le choix. Le Bhoutan est d'abord réfractaire à ce nouveau régime politique, pas tant parce qu'il en a peur, mais parce qu'il n'en voit pas l'intérêt.
You don't think he's gonna kill anyone, do you? He's a monk, right?
I don't know, man. We live in strange times.
C'est grâce à l'action des acteurs locaux qui vont faire preuve de patience que les habitants vont comprendre, non sans humour, tout le pouvoir qu'ils vont arriver à exercer sur leur petite vie grâce à ce changement historique, sans pour autant renier leur histoire et certains modes de fonctionnement parfois inchangés depuis des siècles. C'est justement la préservation de l'histoire par l'intrusion de la modernité qui rend les choses intéressantes pour eux, car ils auront toutes les capacités possibles de continuer à exister dans un monde qui ne peut aller que de l'avant. L'humour qui découle de ce regard tendre n'est pas non plus inoffensif. L'arrivée de la modernité via la télévision va fasciner les habitants qui vont découvrir assez ahuri les péripéties de James Bond dans la diffusion de Quantum of Solace sur leur écran. Le fantasme accordé aux armes est constamment ramené à la réalité violente de ces dernières et la quête de l'Américain paraît de plus en plus futile au fur et à mesure que se déroulent les préparations pour l'élection blanche. La conclusion du film, tout en douceur et loin de la fureur des canons chargés, pose une belle morale sur certains fantasmes et certaines réalités qui vont marquer l'entrée du Bhoutan dans le 21e siècle. L'équilibre n'était pas facile, la vision tout en bienveillance de Paavo Chonin-Dorji achève d'installer un agréable sourire sur nos visages, surtout en ces temps d'élection européenne au ton, lui, bien plus violent.
Le Moine et le Fusil est en salle depuis le 26 juin. Trois histoires multiplient les points de vue autour du couple et de l'amitié. Nous parlons de Kinds of Kindness, qui a valu le prix d'interprétation masculine à Jess Plemons au dernier Festival de Cannes.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Grand habitué du Festival de Cannes, le réalisateur grec qui a décroché à trois reprises le prix du scénario, donc pour trois de ses films, Canine, The Lobster et Mise à mort du cerf sacré. Son nouveau long métrage, Kinds of Kindness, quant à lui concourait le mois dernier pour la Palme d'Or, donc pour la 77e édition du Festival. Et c'est à cette occasion que j'ai pu le voir. Alors, les cinémas français vont donc encore placarder cette année une affiche promotionnelle portant le nom de L'Antimos, car il y a quelques mois à peine sortait sur nos écrans en France Pauvre Créature, son précédent long métrage qui avait remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise et dont j'ai parlé ici dans Cinérama en janvier. Le film avait d'ailleurs plutôt fait l'unanimité dans le studio auprès de mes chers collègues et chroniqueurs. Alors, pour Kinds of Kindness, le cinéaste reprend une partie du casting 3 étoiles qu'il avait mis en scène dans Pauvre Créature, donc Emma Stone, Willem Dafoe, Margaret Qualley, qui se donne la réplique à nouveau, accompagnée donc cette fois de Jesse Plemons, que j'avais trouvé particulièrement remarquable et qui a pour sa part remporté un prix d'interprétation masculine dans Kinds of Kindness pour son rôle, ou devrais-je dire ses rôles.
C'est maintenant le moment de vérité. C'est génial, non?
Le long métrage du réalisateur s'apparente à un film à sketch tout en longueur, puisqu'il dure presque 3 heures. Encore un film à rallonge. On peut dire qu'on en a pour son argent en achetant un ticket de cinéma pour aller voir une telle œuvre qui, en plus d'être conséquente, est également divisée en 3 chapitres distincts et clos. Des films dans le film, où chaque boucle se referme pour en ouvrir une autre. En fait, le réalisateur compose, à partir des mêmes acteurs, une nouvelle histoire, de nouveaux liens interpersonnels entre eux, puisqu'il leur fait incarner, dans chacun des 3 actes, un nouveau protagoniste, dans une configuration diégétique inédite. D'ailleurs, chaque chapitre se clôture par un petit générique de fin qui crédite les acteurs principaux. Au début, on a un peu de mal à saisir qu'on nous emmène tout à fait ailleurs, après le premier générique. Que par exemple, le personnage que joue Jesse Plemons, acteur toujours très central, n'est plus l'employé de celui qu'incarnait Willem Dafoe, mais son beau-fils tout à coup. On s'accroche un peu pour essayer d'élucider ce qui lie les parties, s'il s'agit d'une ellipse, d'une suite ou d'un flashback, peut-être une genèse. Il n'en est pourtant rien. Les actrices se sont parées de nouveaux atours après le tombé du rideau. Alors, est-ce qu'on en ressort vraiment d'une telle expérience avec le sentiment d'avoir vu 3 films pour le prix d'un ? Oui et non. Au-delà du casting, il y a bien quelques fils conducteurs que l'on peut identifier et qui offrent une cohérence à l'ensemble. L'un d'entre eux n'est autre que la thématique principale au cœur de ces 3 petits films qui composent l'œuvre globale. Il s'agit de l'emprise, une notion clé pour appréhender la lecture de ce long métrage particulier et de l'exercice de pensée auquel nous convie le réalisateur grec dans cette réalisation où c'est très clairement ce concept, décliné sous différentes formes, qui va précipiter les destins des protagonistes vers des issues catastrophiques. Dans cette fable, donc en triptyque, à contre-pied complète son précédent film Pauvre créature, tout gravite autour des rapports de domination-soumission, de l'aliénation à différentes entités, que ce soit le couple, le travail, la religion, et où les différents protagonistes sont assujettis à l'autorité et à l'affection, de sortes de psychopathes tout-puissants. Surfant toujours sur des ressorts absurdes et comiques, Lanthimos se joue de ses personnages sans gentillesse aucune et nappe chacune de ses histoires du cynisme qu'on lui connaît, décortiquant avec une précision chirurgicale les dynamiques psychologiques de chacun. Chirurgicale aussi car on sait l'appétence du cinéaste pour le milieu médical et l'anatomie, encore très présent dans Kinds of Kindness, où morgue, hôpital et anthropophagie ne sont jamais loin. Comme toujours et avec une grande liberté de ton, Lanthimos nous pose avec lui en observateur impitoyable de la gangrène qu'il a semée. On assiste impuissant aux déambulations tragico-mico-trash des personnages pris au piège d'une sombre mécanique à laquelle ils semblent incapables d'échapper. Tour à tour, un homme tente de reprendre le contrôle de sa vie, un policier retrouve sa femme longuement disparue en mer mais ne la reconnaît pas, puis une femme cherche une personne dotée d'un pouvoir bien spécial destiné à devenir leader spirituel. Les nombreux travelling avant qui referment l'étau sur chacun d'entre eux ne duperont pas le spectateur qui peu à peu pourra opérer un travelling arrière, lui permettant de voir qu'encore une fois, le réalisateur misanthrope nous a posté en haut d'une tour de panoptique. Vous savez, cette tour de contrôle de dispositif carcéral qui permet de surveiller en continu des individus, d'où nous avons observé pendant 3 heures les prisonniers se débattre pour rester en position de soumission. Dans une trame rigide, la prison qu'est son film, dont les barreaux ressemblent étrangement à ceux de la société qui nous a servi un peu tous.
Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos est en salle depuis le 26 juin et vous pouvez faire un rattrapage avec Pauvre créature donc, qui est sorti en janvier. Je pense qu'il est disponible en VOD. On poursuit Cinérama avec 4 films pour, si j'ose dire, le prix d'un. C'est avec toi, Manu.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, peu de sorties cannoises ce mois de juin, plutôt frileux, période peu propice pour les blockbusters et pour les films d'auteurs attendus avec tête d'affiche, mais un peu à l'exception des films dont on vient de parler. Mais c'est vrai que sinon, le mois de juin, je l'ai trouvé assez terne. Alors, les salles à réessais tirent un petit peu la gueule en cette pré-période estivale, qui voit donc les gens s'installer sur les terrasses, profiter du soleil, des soirées entre amis et des premiers festivals de musique en plein air. Alors, bref, peau de chagrin pour les exploitants qui nous refouquent des petits films qui risquent de trouver difficilement leur public. Alors surtout quand ceux-ci, aussi ambitieux et intéressants soient-ils, sont si difficiles d'accès. Alors Commençons par le plus problématique, défendu ardemment par une presse parisienne partisane, le bien nommé « Vas-tu renoncer ?», deuxième long métrage de Pascal Baudet après le déjà pénible « Porte sans clé », que j'avais chroniqué il y a quelques années d'ailleurs. Œuvre fauchée plus conceptuelle que primitive. Alors de l'art brut à l'essai poseur et abscon, il n'y a qu'un pas que la réalisatrice franchit allègrement, ne se posant pas la question essentielle, à qui s'adresse son film, construit autour d'une fausse bonne idée, la rencontre au présent entre Édouard, un peintre, et Charles, un poète, deux artistes maudits qui ne parviennent pas à percer. Oui, bon, Édouard et Charles, je ne veux pas dire qui c'est, tout le monde le sait, plus ou moins.
Bon, on va quand même le préciser.
On va quand même le préciser,
que,
oui,
parce
bon,
y a,
d'accord.
Il y a une relation historique entre Charles Baudelaire et Édouard Manet.
Édouard Manet, bon, je ne l'avais pas dit, mais ça me semblait évident. Alors, réflexion poussive sur la création et le statut de l'artiste, Vas-tu renoncer ? Est un monument d'entre-soi où l'on voit défiler critiques et artistes parisiens venus se perdre dans une pseudo-comédie intello nourrie de références littéraires et picturales jusqu'à saturation.
Les yeux d'un gitan, quelque part, une homélie, un au revoir, une rencontre.
J'ai du mal à peindre.
Charles !
C'est la main gauche de la nuit.
Charles !
La solitude.
Plus tard. Car j'aimerais aimer ce qu'il peint, mais j'y arrive pas.
S'il ne comprend pas, tu lui donnes ça. Tu donnes à Édouard.
C'est la main gauche qui agit, une âme surgit de nulle part. Un exercice du hasard qui vous donne l'envie de croire.
C'est peut-être ce qu'il y a de mieux, la chanson, qui est une chanson écrite par Jean-Louis Murat, en fait. Donc, cette conception vaniteuse d'un cinéma exigeant, qui ne s'adresserait qu'à quelques lumières éclairées, alors mérite une vague indulgence pour ses cadres soignés et quelques idées amusantes. Plus modeste, mais aussi plus sympathique, Camping du Lac marche sur les traces du cinéma précieux de Guillaume Braque, retrouvant par intermittence ce travail d'équilibriste entre documentaire et fiction, en partant d'une idée à la fois très simple et insolite, même très enfantine. La réalisatrice Éléonore Saint-Agnan, quasi dans son propre rôle, au volant de sa voiture, traverse les paysages de l'ouest de la France. Alors elle tombe en panne en plein cœur de la campagne bretonne, alors qu'elle comptait rejoindre la côte. Contrainte d'y rester un temps incertain, car la réparation traîne, elle s'installe dans l'un des mobilhomes du camping, proche d'un lac où vivrait, selon certaines légendes locales, un monstre. Alors, elle observe les autochtones, tels des rednecks français, figures picaresques qui attisent notre curiosité, et aussi celle d'Éléonore, qui s'attend à tout moment à voir surgir la bête de l'eau. Alors, cette petite balade bretonne, sur fond de contes et légendes, qui n'est pas sans charme, déploie un ton singulier et touchant. La finesse du regard de la cinéaste sait capter le réel par touches impressionnistes. Hélas, alors ne se faisant pas assez confiance, elle alourdit son film par une voix off scolaire, frisant l'amateurisme, qui affadit toutes les idées visuelles ingénieuses. Dommage, le talent de la cinéaste est indéniable, d'autant qu'elle ne l'exhibe pas. Mais elle le saborde par des partis pris très discutables. On guettera néanmoins la suite. Elle a un don spontané pour filmer la nature, non pas majestueuse, mais assez vivante, palpable et assez proche de nous.
J'ai pété une durite, c'est ça ?
Non, c'est le joint de culasse. C'est lui qui fuit, là.
Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au camping du lac. C'était une dizaine qui vivaient là à l'année. Erwan m'a installé tout en haut. Il m'a dit que de là, j'aurais peut-être la chance d'apercevoir la bête du lac. C'était pas la mer, mais un Loch Ness breton, ça m'allait bien aussi.
L'atmosphère bucolique de Camping du Lac, alors un peu hippie on pourrait dire dans l'atmosphère, alors nous permet de faire une petite transition avec le documentaire hagiographique sur John Baez, le bien nommé John Baez, I Am a Noise, signé par trois réalisatrices, Karen O'Connor, Miri Navaski et Maeve O'Boyle. Alors il s'agit vraiment d'une hagiographie, car totalement sous contrôle de la chanteuse, ce qui n'empêche pas le documentaire d'être honnête et intéressant, bien que réservé aux femmes d'une des plus belles voix de la musique folk. La forme documentaire demeure toutefois une meilleure option que le biopic, en témoigne une récente catastrophe autour de Amy Winehouse ou Bob Marley. Il vaut mieux un portrait finalement orienté par l'artiste lui-même que par la famille. Le film relate la dernière et ultime tournée de cette grande dame de la folk musique entrecoupée d'images d'archives sur plusieurs décennies et de témoignages vibrants.
Which decade did I like? I said this one.
Léoné, quatrième film, dernier, hein, qui n'a rien à voir avec le thriller, je vais dire, pédo-débile de Luc Besson, est un film argentin d'Andy Nachon et Papou Kuruto autour du deuil au sein d'une famille queer. Alors, réflexion autour de la reconstruction suite à la perte d'un proche, Léon suit le parcours de Julia après le décès de sa compagne Barbie. Elle tente de tenir son restaurant, être présent pour son fils, donc Léon, et affronter comme elle peut un entourage compliqué entre sa belle-mère et le père biologique de l'enfant, absent depuis longtemps. Alors, sans être déshonorant, hein, ce drame psychologique reste collé au plancher, à une vision du réel crédible, mais qui ne dit rien de plus que ce que l'on voit à l'écran. La mise en scène tout en plan moyen est d'une banalité télévisuelle désarmante et confond souvent naturalisme et platitude. Alors, un petit film sans aspérité, hein, qui doit néanmoins beaucoup à la qualité de ses interprètes.
Et vous, que vas-tu faire maintenant ? Conte. Digo, vas a poder con todo.
Da lo mismo el segundo día.
Y estoy pensando en vender una parte.
Llámame cuando puedas, por favor.
Enfin, je voulais juste évoquer un film que je n'ai pas vu, le dernier haïku filmique de Hong Sang-soo, hein, In Water. Alors, très excitant, là, par son concept inédit. Alors, vous vous souvenez, dans Harry, tous ces états de Woody Allen, on rencontrait un acteur flou, au sens figuré, Robin Williams. Idée géniale, est reprise littéralement par le coréen à l'échelle de tout le film. In Water est un film flou qui opère entre chaque plan séquence une mise au point, bon, que je suppose en relation avec l'état d'esprit des comédiens. Voilà. Ça me donne énormément envie, d'autant que ça dure une heure. Une minute.
Merci pour ce petit balayage des sorties du 26 juin. Jean-Christophe Meurice s'examine sur le ton de la comédie noire et cruelle notre goût pour les faits divers bien sordides. Nous parlons des pistolets en plastique.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Ah oui, monsieur Bernardin, oui, oui, oui. Ah, oui
c'est
oui,
lui
oui.
qui a tué toute sa famille.
Ah oui, pauvre homme, oui.
Jean-Christophe Meurice avait frappé un grand coup avec Apnée, son premier film tourné avec trois fois rien, et avait fait un peu peur avec son Orange sanguine où le mur était si saturé de noir et de morbidité que certains ont décroché. Le metteur en scène, avant tout de théâtre, est revenu avec Les pistolets en plastique, la comédie qui a fait rire à Cannes et franchement rire, mais un peu moins les journalistes. L'idée est de s'emparer de l'affaire de Dupont de Ligonnès, hein, ce médecin toujours en fuite qui est suspecté d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants. Une tragique histoire qui ne manque pas de ressorts comiques, comme le prouve à chaque séquence Jean-Christophe Meurice qui met en scène notre fascination donc pour les faits divers.
Des fois quand ils s'y mettent à trois, les deux gosses, ma femme, je te jure, je ferai un blow, tac, je les mets dans un sac, comme les chatons, je les noie.
Aucune déchirure, une épisio.
Oui mais stop, non. Voilà, vous n'allez pas me parler de votre chatte, si
L'idée de base est simple, hein. Le spectateur sait tout. Dupont de Ligonnès, qui s'appelle Bernardin dans cette fiction, se la coule douce en Argentine où il refait sa vie. Et tandis que tout le monde est à ses trousses, deux femmes reçoivent un prix d'enquêtrice web. Autant dire que ce qui se discute sur le web, c'est ce qui sort dans la presse avec tout un lot d'hypothèses qui sont ensuite débattues sur Facebook. Nous voilà donc partis avec ces deux femmes sur la piste du tueur et aussi de celui qui va être arrêté à tort. Alors dans la vraie vie, c'était à Glasgow qu'un retraité ou pré-retraité a été confondu avec Dupont de Ligonnès. Ici, c'est au Danemark, ce qui nous vaut de brillantes séquences de mise en scène où le réalisateur va jusqu'à aseptiser le décor qui est réduit à quelques meubles essentiels dans une ambiance clinique. Il y a quelques idées de mise en scène, mais surtout beaucoup de séquences où se déploie un humour de situation et des dialogues savoureux. En cette période électorale délicate, la femme du rez-de-chaussée d'un immeuble qui donne son avis sur tout en étant raciste sans intention particulière de l'être, va avoir un goût délicat pour certains.
Moi demain, je veux ressembler à Scarlett Johansson. Eh ben c'est parti.
Vamos a la fiesta y vamos a bailar.
Depuis qu'il a dégommé tout le monde, c'est plus tranquille, hein?
You know, it's a very French case.
Do you have anyone who actually speaks English?
Donc il y a trois trames, les deux enquêtrices amatrices qui cherchent le tueur, l'arrestation du fou coupable et l'exil du tueur en Argentine. Au milieu de ces trames, il y a des petites séquences dans lesquelles des humoristes sont placés. Aymeric Lompré, Vincent Dedienne, Nora Hamzaoui et Jonathan Cohen ne font que passer comme pour un sketch, mais ça fait du bien, mais ça reste un sketch. Le réalisateur faisait un peu la même chose pour Apnée, collant des bouts de séquences avec d'autres, mais il conservait quand même ses personnages. Le film a été égratigné lors de sa projection à Cannes, beaucoup ne comprennent pas le parti pris de Meurice, car c'est un film un peu fourre-tout. Alors il y a ces sketchs bricolés qui tirent en longueur, il y a les personnages volontiers outranciers qui se succèdent sans être plus construits que cela. Il y a quelque chose du monstre dans la construction de ce récit, on suit un monstre, mais ceux qui suivent le monstre finissent par en prendre les traits, et la mise en scène file aussi finalement la métaphore de la monstruosité. On passe de l'absurde souvent à l'horreur, mais on reste dans la comédie, sauf pour une séquence très premier degré qui finalement a bien de quoi surprendre. Les pistolets en plastique est en salle depuis le 26 juin.
alors?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine et Manu, tu reviens avec cette idée hein, de parler de 4-5 films.
Oui, des films qui sortiront tout le long du mois de juillet en fin de compte.
Moi je vous parlerai des quelques rares grosses sorties attendues pendant l'été.
Et pour ma part d'une comédie qui sort la semaine prochaine, Pourquoi tu souris ?
À la semaine prochaine.